Merci Arnaud, merci à l'équipe qui nous a bien préparé pour ouvrir notre cœur et aussi de nous avoir rappelé aussi l'importance de l'amour du Seigneur envers nous. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions réfléchir sur la volonté de Dieu par ce dimanche de l'Avent. Pourquoi il est venu et quel a été son ministère, quel était son but. Et ce matin, Arnaud nous a vraiment rappelé l'importance de l'amour de Dieu. Et voilà, donc c'est important de revoir peut-être se concentrer un peu sur Jésus lui seul. Souvent, on me demande quel est ton sujet de prière. Et on me dit, enfin, moi je leur réponds, mon plus grand sujet de prière, c'est que je sois un bon berger, un bon pasteur, que je puisse être à la hauteur de l'appel que le Seigneur m'a adressé. Et voilà. Et en réfléchissant encore sur ce sujet de prière, comment je pourrais être un bon berger, le Seigneur m'a parlé en disant que bah, rappelle-toi ce que le Seigneur a fait sur cette terre, rappelle-toi sur son ministère qui a été bon, et que on a qu'à justement le suivre. Et c'est pour ça que j'ai choisi donc une parole de prophète Ésaïe dans chapitre 61 que nous avons aussi lu dernièrement. Nous avons rappelé aussi dernièrement assez souvent cette parole que j'aimerais vous lire maintenant. Après avoir donc décrit sur le Messie, sur le Messie qui allait venir, le Messie qui allait être notre lumière, au chapitre 61. Ésaïe parle ainsi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc, c'est en parlant du Messie. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Voilà jusqu'ici notre lecture. Cette parole a été exaucée par Jésus. D'ailleurs, durant son ministère, il a rappelé cette parole. Il a rappelé cette parole dans Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16, que j'aimerais vous lire. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre. Il se rendit à Nazareth. Voilà donc Jésus, après avoir accompli plein de miracles à Capernaüm, il se rend dans son pays natal, à Nazareth, là où il a grandi, là où il a côtoyé les gens, là où il a exercé son métier de charpentier. Donc là, il va auprès des siens, où il avait donc été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Vous savez, au jour de sabbat, les gens se rassemblaient aux synagogues pour partager la parole de Dieu. Le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc là, il rappelle ce que je vous avais lu dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Cette parole est accompli avec la venue de Jésus, avec ce qu'il a pu apporter pour nous. Nous vivons dans les derniers temps. Est-ce que ces paroles vous inspirent encore? Est-ce que vous êtes vraiment passionné par ce Jésus qui est mort à la croix pour mon péché, pour mon salut? Est-ce que nous avons toujours ce zèle pour le Seigneur? D'ailleurs, dans l'ADN de Perspective, on nous demande dans l'ADN de Perspective, parmi un des points, c'est la passion pour Jésus. La passion pour Jésus, pour ce qu'il a fait. C'est vrai que même notre union d'église a pour but que chacun d'entre nous vive cette intimité relationnelle avec le Seigneur et que nous proclamions, que nous vivions vraiment la seigneurie de Jésus dans chaque domaine de nos vies. Pas juste le dimanche matin, pas juste peut-être dans un domaine, mais dans chaque domaine de nos vies. 7 jours sur 7. Est-ce que cette passion que nous avions pour Jésus brûle encore? C'est la question que je me suis posée. Et ça m'a rappelé un petit peu l'exemple d'une dame que j'ai connue à Mulhouse. Cette dame m'expliquait que, oh, tu sais, elle avait 90 ans à peu près, à l'époque. Enfin, non, à l'époque, elle avait à peu près 80 et quelques. Et maintenant, elle doit avoir 90 ans. Elle me disait, à mon époque, quand j'étais jeune, pour aller à l'église, il n'y avait pas de voiture. Donc, je prenais mon vélo. Hein? Donc, une jeune fille de 20 ans qui prenait son vélo pour faire 20 kilos, 25 kilomètres pour aller à l'église. Parce que nous étions hâte de retrouver déjà ensemble, entre nous, et parce que nous aimions louer le Seigneur. Même si cette église était loin, ce n'était pas un frein. Elle était passionnée pour Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige. C'est vrai qu'elle disait qu'elle a eu beaucoup d'accidents quand il neigeait. Mais, bon, elle avait 20 ans. Ça m'a rappelé aussi Rebecca. Et elle disait, oui, rien nous arrêtait pour venir à l'église. Est-ce que nous avons cette passion pour Jésus? De nos jours, en réfléchissant, quand il fait trop beau, il faut sortir. Il faut profiter ce week-end. Quand il pleut, comme aujourd'hui, il fait trop froid pour sortir. Quand il neige, on est bloqué, donc on a une excuse pour ne pas sortir. Quand on est malade, ah oui, il ne faut pas contaminer les autres. Je suis donc je reste à la maison. Etc., etc. Quoique, en tout cas, tout ce que je vous ai décrit, ce ne sont que des signes extérieurs. Mais est-ce que vraiment nous avons à l'intérieur la passion pour Jésus, l'amour pour Jésus? Nous avons ce matin maintes fois entendu chanter l'amour du Seigneur. Est-ce que cet amour nous passionne encore? Dieu a dit qu'il vomirait de sa bouche ceux qui sont tièdes, ceux qui sont ni froids ni bouillants pour le Seigneur. Est-ce que suis-je pas devenu tiède? Peut-être que Dieu aimerait déverser sa grâce, son esprit, pour que nous puissions être dans la plénitude. Mais par exemple, dans un verre d'eau, enfin dans un verre, si nous mettons un couvercle, même s'il y a des pluies qui déverse là-dessus, à coup du couvercle, cette verre ne sera pas rempli. Mon cœur ne sera pas rempli, même si Dieu nous déverse sa grâce. Qu'est-ce qui bloque? Ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, mais qu'est-ce qui bloque pour ne pas être rempli dans la plénitude de l'Esprit Saint? Nous avons vraiment encore prié pour que le Seigneur ouvre notre cœur. Oui, qu'est-ce qui bloque pour que nos cœurs ne soient pas ouverts pour recevoir cette grâce qui nous vivifie? Le Seigneur nous dit « Recevez l'Esprit de Dieu !» Recevez l'Esprit de Dieu. Je reviens au message de ce matin, de la lecture de ce matin. Oui, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quand cette parole, cette message a été annoncé et que Jésus lui-même a dit à toute l'assemblée dans le synagogue que cette parole est accomplie, les gens avaient compris que Jésus parlait de lui. Parce que les gens connaissaient ce qu'il avait déjà accompli à Capernaüm. Mais les gens de Nazareth, ceux qui ont grandi avec lui, ceux qui l'ont connu depuis toujours, le mépriser. Ils ne supportaient pas sa parole. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont saisi. Et ils l'ont pris sur le sommet d'une falaise, le plus haut sommet de la ville, pour le faire tomber. Jésus s'en échappe miraculeusement. Les gens, lorsqu'ils sont aveuglés par leur idéologie ou leur mauvaise vérité, ils ne voient pas la vérité et ils agissent de cette manière-là. Revoyons un petit peu le message de Jésus aujourd'hui. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Ici, on ne parle pas forcément les pauvres matériellement. Hein? Ce sont les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce ne sont pas les pauvres, ou plutôt des gens qui font des compromis avec le monde, ou qui ont des soucis avec de ce monde. Voyons voir un peu ceux qui ne sont pas pauvres en esprit. J'ai choisi quelques exemples. Dans Marc, par exemple, dans 10, un homme a couru, demande à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Alors celui-ci lui répond, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Apparemment, c'était un religieux pieux, qui essayait en tout cas de respecter toute la parole qui a été écrite dans la Bible. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Un riche qui n'arrivait pas à lâcher prise de ce qu'il avait. Le bien, la richesse est devenue une idole, la priorité pour sa vie. C'est pour ça que, même si son cœur voulait suivre Jésus, à cause de cette frein, je dirais, le couvercle, il ne pouvait pas recevoir la grâce de Dieu. Encore un autre exemple, dans Luc 9, 59, 58, un homme est venu au Seigneur, auprès du Seigneur, et il lui dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Peut-être que nous avons aussi ce genre de cri, auprès du Seigneur. Seigneur, oui, j'aimerais te suivre. Je vais te suivre, Seigneur. Même On peut le proclamer comme ça. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Là, il dit, voilà, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père, ce qui est normal. Il aimerait ensevelir son Père avant de suivre le Jésus. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il est en train de dire, d'abord pense aux priorités. C'est un privilège de suivre le Seigneur. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Ce qui est aussi normal. Mais Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Souvent on dit, Seigneur, je te suivrai. Seigneur, oui, je vais faire ceci ou cela. Mais après, on se retourne. On rebrousse notre chemin. Parce qu'il y a des choses un peu plus importantes que le Seigneur. Et même, ils font des compromis avec le monde. C'est ça qui ne permet pas justement qu'on soit rempli complètement de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste ce genre de choses. Il y a aussi Satan, vous savez qu'il ne chôme pas, il ne dort pas, il travaille toujours, sans arrêt, pour nous freiner, hein, pour nous barrer, pour nous faire tomber. Lui qui est mesquin, subtil, il utilise toutes sortes de moyens pour nous faire tomber. Et le sous-couvercle grandit de plus en plus, même si le Seigneur verse des trompes d'eau. Il nous verse avec une grande averse, et là, à cause de ce trompe d'eau, enfin à cause de ce couvercle, on n'est pas rempli. Au point que, un jour, le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les pauvres en esprit, en fait, sont des gens qui s'humilient devant Dieu, qui savent ce que c'est la priorité, qui demandent pardon et qui disent, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand nous sommes capables de crier ainsi à Dieu, nous sommes des pauvres en esprit. Quand nous savons que nous ne pouvons rien faire par notre propre moyen, à ce moment-là, nous devenons des pauvres en esprit, parce que nous désirons ardemment le Seigneur. Nous désirons ardemment que ce Seigneur se manifeste pleinement dans ma vie personnelle, dans tous les domaines de ma vie. Et puis, quand les pauvres en esprit crient de cette manière, le Seigneur nous sauve, il nous envoie son esprit pour annoncer aussi cette bonne nouvelle aux autres. Et puis, deuxième point, le Seigneur a été envoyé aussi pour guérir le cœur brisé, le cœur brisé, le cœur brisé. Autour de nous, nous pouvons observer beaucoup de gens qui ont des cœurs brisés. Autour de nous, nous pouvons voir aussi des gens qui souffrent. Dans Psaume 38, il est dit, « Je suis courbé, abattu au dernier point, tout le jour, je marche dans la tristesse. » On voit un petit peu les fardeaux de ces personnes. On voit ces personnes qui ont des cœurs brisés. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Voilà donc elle. Dans le psaume 38, le psalmiste en tout cas, dans le chapitre 38, il exprime quelqu'un qui est complètement meurtri, brisé. On peut voir des gens brisés à cause des deuils, à cause des problèmes relationnels, familiales. Nous parlons souvent aussi en ce moment beaucoup de de violence conjugale. Nous pouvons aussi voir, encore cette semaine, nous souffrons aussi à cause du terrorisme. Il peut y avoir toutes sortes de brisements possibles dans la vie de chacun. Mais ce Seigneur est venu pour nous accorder l'espérance. Ce Jésus-Christ est le grand médecin du monde, de notre âme. Il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Il est venu pour nous guérir en envoyant aussi son consolateur, l'Esprit de Dieu. Et nous ne serons jamais seuls. Le Seigneur nous a même promis qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il fait attention à nos blessures et il prend soin de nous. Oui, il guérit les cœurs brisés. Et puis, il est aussi venu pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. C'est vrai que les gens ont besoin d'être délivrés de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'obsessions, de drogues, d'addictions, de peurs. Parfois, nous sommes prisonniers de quelque chose. Mais malgré tout, le Seigneur a la capacité de nous délivrer. Le plus important, c'est de voir notre état spirituel et de se lamenter de notre état, de crier à Dieu dans le désespoir. Mais le Seigneur, dans Psaume 34, il est dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes ». Voilà, le Seigneur nous voit, nous comprend, il nous voit. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Lorsque nous crions au Seigneur, Dieu nous écoute. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Le Seigneur délivre de toutes nos détresses. Et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans l'abattement. Il faut vraiment se rendre compte que le Seigneur peut nous délivrer de toutes sortes de choses. Nous avons entendu plein de témoignages, même parmi notre assemblée, les gens qui étaient complètement prisonniers de quelque chose, à cause du Seigneur, à cause de l'amour de Dieu et à cause de l'amour du prochain, ils ont été délivrés. Et ce miracle est toujours possible, même aujourd'hui. Et vraiment, faisons confiance au Seigneur et déposons tous nos fardeaux devant à la croix pour qu'il puisse agir, puis qu'il puisse agir. Sachons que le Seigneur est au centre de notre vie et qu'il peut aussi vraiment agir. N'oublions pas qu'il est avec nous. Et puis le Seigneur a permis que les aveugles recouvrent leur vue. J'aime bien quand on parle des aveugles, cet épisode où un certain Bartimée, mendiant aveugle, était au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Cet aveugle a crié, cet aveugle a demandé de l'aide en criant fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il faisait autant de bruit. Alors, pour ne pas gêner Jésus, il pensait bien faire, mais en fait, il s'est trompé. Et il criait beaucoup plus fort, lui, ce Bartimée. Il n'abandonnait pas. « Fils de David, aie pitié de moi !» Continuons à prier pour que les gens qui sont dans l'aveuglement recouvrent leur vue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous cachent la vérité. Le monde aimerait cacher la vérité. Le monde pervertit la vérité. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu une émission, le mardi soir, sur Arte, une émission parlant de enfin, les journalistes se sont infiltrés pour voir les différentes associations chrétiennes qui sont contre l'homosexualité. Contre l'homosexualité. C'est vrai que les mœurs d'aujourd'hui, si nous sommes contre l'homosexualité, on est condamné par la société. On nous regarde comme des gens bizarres, qui sont complètement à côté de la plaque. Or, la Bible nous dit que l'homosexualité est un péché. On doit haut et fort proclamer que c'est un péché. Et c'est contraire à l'idéologie du monde aujourd'hui. C'est ça la stratégie. Le monde nous aveugle avec une certaine idéologie. Avec une certaine... Ils peuvent dire que oui, nous sommes tolérants. Bien sûr, il faut être tolérant, mais pas de cette manière-là. Pas en acceptant le péché. Bien sûr, nous sommes tolérants aussi vis-à-vis des pécheurs. C'est-à-dire que nous les accueillons, nous les aimons, nous pouvons les accompagner, nous pouvons prier pour eux. Mais on ne doit jamais accepter le péché. On doit séparer deux choses. Aimer la personne, mais pas accepter le péché. On doit dire la vérité. Mais Satan, sa stratégie, c'est d'aveugler les gens avec une certaine perversion de la vérité. Et il est vraiment subtil. Il est vraiment subtil, ce Satan. En tout cas, il y a des gens qui sont aveuglés par différentes choses. Peut-être aveuglés par leur idéologie, à cause de leur idéologie ou leur idole, par leur priorité. Mais vraiment, le Seigneur est venu justement pour qu'il recouvre la vue. Comme il a fait aussi avec nous, il peut faire aussi avec nos proches qui sont aveuglés. Comme il a fait aussi avec nous, il peut faire vraiment des miracles pour que notre famille ou encore nos voisins puissent découvrir la vérité. Et nous-mêmes aussi, nous pouvons travailler dans ce ministère, c'est-à-dire par notre transformation, par notre témoignage vivant, les athées peuvent venir auprès du Seigneur. Soyons vraiment aussi des bons témoins, des exemples, des modèles que les gens peuvent apercevoir. Et ainsi, dans Jean 14, il est dit qu'en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà, nous qui sommes encore sur cette terre, nous pouvons faire comme le Seigneur a fait sur cette terre. J'aimerais terminer par une lecture dans les Actes 13, à partir de 7. Il y avait un proconsul, Sergius Paulus, ou Paulus, c'était un homme intelligent. Il appelle Barnabas et Saul, donc Paul, pour entendre, parce qu'il avait vraiment, il désirait entendre la parole de Dieu. Mais dans ce village, il y avait un certain Elimas, le magicien, qui était là. Et il faisait opposition, il cherchait à détourner de la foi du proconsul. Alors Saul, donc c'est-à-dire Paul, rempli de Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fille du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Voilà la stratégie du diable. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, et ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, Donc les miracles, vous savez, les miracles peuvent aider les gens à progresser dans la foi. Cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Mais le plus important, c'est qu'il était frappé aussi par la doctrine du Seigneur. Ce n'est pas forcément les miracles, mais la parole de Dieu qui nous transforme, la parole de Dieu qui peut vraiment nous accorder la foi. C'est vrai que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui, il y a le diable qui fait tout. Il utilise des ruses, des fraudes pour nous empêcher à progresser. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des puissances. Nous avons la puissance de Dieu. Nous pouvons être vraiment des hommes victorieux dans ce monde. Alors que nous sommes appelés à être des lions. Vous savez, des lions quoi. Hein? Ben, imaginez un lion qui est en cage. On lui donne la nourriture tous les jours. Donc il ne pense pas à chasser. Hein? Imaginez aussi un lion, peut-être sans dents, sans griffes. Le monde n'aura pas peur de ce lion-là. Le monde n'aura pas peur de nous. Dieu nous a appelés à être des hommes, des femmes qui annoncent la vérité. Parfois, ça peut être difficile parce qu'il est dit dans 2 Timothée 3, il est dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous connaîtrons des persécutions. Même si nous vivons de manière droite, en prêchant la parole de Dieu, en prêchant la vérité, parce que nous vivons pieusement en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir des persécutions. On peut se poser des questions, hein, en disant que, enfin, à un moment donné, mon plus grand souhait, c'est que je sois vraiment un bon chrétien auprès des chrétiens, mais aussi un bon chrétien auprès des gens, des païens, qui me disent « Ah, toi, t'es un bon chrétien. T'es bien, quoi. Hein? T'as la tolérance, t'as... » Non. Lorsque nous disons la vérité, parfois on est confronté, enfin, on peut ne pas être... Enfin, on peut ne pas plaire aux gens. N'oublions pas que Jésus est toujours avec nous. Avec nous. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode où Jésus avait 12 ans? Il va à Jérusalem pour faire, voilà, pour se présenter devant, à Jérusalem en tout cas, devant les Sanhédrin. Et puis au retour, les parents ne savaient pas que Jésus était avec, n'était pas avec eux. N'était pas avec eux. Ils pensaient que Jésus était avec eux, mais ils ne l'ont pas su que Jésus était avec eux. Pourquoi je vous parle de cela? Parfois, on a l'impression que ça fait des années que nous sommes devenus chrétiens et on a l'impression que Jésus est dans ma vie, au centre de ma vie. Jésus est ma priorité, je sais que Jésus est avec moi et en fait, en s'examinant nous-mêmes, nous voyons que parfois, Jésus n'est pas avec nous. Dans ce cas-là, il faut retourner le chercher. Que nous puissions vraiment réfléchir sur notre priorité. Et faire peut-être revoir le ministère de Jésus qui est pleinement accompli et qu'il veut aussi que nous fassions la même chose sur cette terre. Et rappelons-nous, oui, Jésus sur cette terre est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour les aveugles, pour qu'ils recouvrent la vue. Et il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et je vais prier. Seigneur, depuis la Pentecôte, L'Esprit est accordé à tous, même abondamment. Tu nous déverses de cette grâce avec ton onction. Mais parfois, ou même souvent, à cause de notre comportement, à cause de notre péché, il y a un couvercle qui se crée entre toi et nous. Et c'est ça qui ne permet pas d'être rempli complètement dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Seigneur, aide-nous à débarrasser de tout cela, puisque tu es venu vraiment pour nous délivrer de tout cela, puisque tu as la capacité de débarrasser ces choses, ces addictions, pour nous remettre dans le droit chemin. Merci vraiment pour ce que Dieu a déjà accompli et tu vas encore faire dans ma vie personnelle. Merci encore pour ta présence avec nous. Donne-nous vraiment cette sagesse pour revoir notre vie, pour se remettre en question et aussi pour se concentrer davantage à notre priorité qui est toi, notre maître, notre Père. Que ton nom soit loué. Amen. Les annonces.